Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'accueille Sophie Trem, la créatrice du blog The Other Art of Living et des Good Mood Class, des événements dans toute la France qui sont un vrai concentré d'énergie positive. Pourtant, Sophie n'a pas toujours été cette personne joyeuse, sereine et surtout en phase avec elle-même. Pendant longtemps, elle a eu ce sentiment que quelque chose n'allait pas, qu'elle n'était pas à sa place, alors qu'elle avait tout pour être heureuse. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle a réussi à sortir de cette impasse, de l'importance de laisser exprimer sa créativité et surtout de ne pas repousser le moment où l'on doit faire face à soi-même. Avec Sophie, on discute également du concept de destin et de ce pourquoi on est sur Terre, car c'est aujourd'hui ce qui pousse Sophie à ne plus avoir peur. Merci à Angélique qui a laissé le commentaire suivant sur Apple Podcasts. J'ai commencé à écouter les podcasts de Louise en réalisant les travaux de mon appartement. Je ne m'en lasse pas, c'est très inspirant. Ça booste en énergie et en motivation pour réaliser nos projets personnels et professionnels. Merci pour ce plaisir hebdomadaire. Merci beaucoup à toi Angélique d'avoir pris le temps de laisser ton avis sur InPower, et également à vous tous qui le partagez à vos proches et sur les réseaux sociaux. Je vous laisse tout de suite avec le nouvel épisode d'InPower, et je vous préviens juste que la conversation commence in medias res, car avant même de commencer officiellement le podcast, j'aimais beaucoup ce dont nous discutions avec Sophie, et ai décidé d'appuyer sur play.
Non, en fait, le truc qui attire souvent les gens que je vois dans Génération et ça, à chaque fois ce qu'ils me disent, c'est qu'en fait, ce sentiment que j'avais, où je me sentais pas bien nulle part, où j'avais pensé que j'avais toujours un problème, et tous les ans, genre, je me remettais toujours en question à me dire, putain, faut que je cherche un nouveau boulot parce qu'il y a un problème, c'est moi, quoi.
Ouais, je vois ce que tu veux dire,
et
c'est assez frustrant.
Il y avait toujours un problème, et à chaque fois, je me rendais à l'évidence, bah, en fait, le problème, c'est toi, c'est pas les autres.
Et comment t'as cherché à le résoudre, on va dire ? Parce qu'en fait, t'étais assez heureuse quand même globalement dans ce que
c'est
tu faisais,
ça.
Tu vois ?
En fait, je pense une vie. En fait, c'est parti ?
Ouais, c'est parti, ouais. C'est parti. Fini. Et après, je te poserai la première question.
J'adore. Heureusement, j'ai pas dit attends, je vais aller pisser parce que je reviens
en live.
Globalement, de façon générale, je suis quelqu'un qui a toujours été très plutôt optimiste, toujours un peu la patate et tout. Mais il y avait un petit souci quand même que je rencontrais partout où j'allais, au niveau du boulot. Je prenais trop toujours sur moi, j'étais toujours dans des jobs où je me retrouvais avec un peu la même configuration, avec un boss un peu tyrannique, et moi qui prenais tout à cœur et genre qui faisait des crises d'eczéma, et à la fin j'en avais marre et je partais et j'étais dégoûtée, quoi, tu vois. En fait, souvent les gens n'avaient pas de problème avec moi, c'est moi qui avais un problème parce que c'est toujours moi qui partais. Et à un moment donné, je me suis dit c'est pas possible, et je voyais bien qu'en fait les gens n'avaient pas de problème comme moi. Quand tu commences à changer de boulot au début tous les 2-3 ans, et encore une fois, moi je sais, je vais avoir 38 ans. Non, je suis encore dans cette génération où les gens restaient quand même 5, 6 ans, 10 ans dans un job avant de changer. Et tu changes quand vraiment t'as gravi tous les échelons. Et moi, c'était même pas une question d'échelons, c'était une question de moi, de tolérance, tu vois. Genre, ouais. Une fois que j'avais compris comment ça fonctionnait, il y avait toujours ce même truc qui revenait, cette histoire de N plus 1 plus 2. Et de rapports humains que je trouvais très compliqués, tu vois. En fait, j'avais du mal avec ce rapport humain où je me disais, putain, des fois, il faut faire de la lèche pour y arriver. Alors que moi, je veux juste que les choses se fassent. Mais si t'es pas copine avec la bonne personne, ça sert à rien. Et donc, pour moi, résultat des courses, perte de temps. Et je retrouvais toujours cette équation partout où j'allais. Je dis, putain, ça me fait chier, j'aime pas cette perte de temps, ce côté totalement subjectif du travail, alors qu'on est censé être juste une équipe, comme une équipe de sport. On a une balle, on doit la foutre dans le camp adverse, quoi, tu vois. Je vois pas comment on se pose midi à 14h. La trajectoire de la balle doit toujours arriver de l'autre côté. Et pourquoi ? Parce que dans des conflits d'intérêts ou machin, tu te retrouves à tout à coup, la balle, le but, c'est même plus de jouer, quoi.
Ouais, ouais.
Et après, je me suis dit, mais en fait, par contre, les autres, ils se posent pas ce genre de questions. Pourquoi ? Il y a que moi que ça touche. Et après, je me suis dit, bon, bah, écoute, ce que je fais, j'ai l'impression que ça sert à rien aussi. Il y a aussi ça, le problème, c'est que je bossais dans la mode. Des métiers qui m'ont toujours fait rêver. Et en fait, je crois que j'ai réalisé un rêve de petite fille. Et c'est un peu le background aussi de ma famille. Ma famille était dans la confection, donc j'ai toujours grandi dans les tissus. J'ai toujours vu des vêtements de A à Z se construire, se déconstruire. Et je rêvais de ce truc, ce beau truc. Et une fois que j'ai fait un peu le tour de la question, j'ai dit en fait, non mais à quoi tu sers, meuf ? À rien. Tu sers à rien. En plus, je travaillais dans le milieu des créateurs, donc si tu veux, des vêtements qui coûtaient très cher, qui touchaient pas et qui parlaient pas à tout le monde. Et donc je me suis dit, bah, à part flatter l'ego de certaines personnes sur Terre, t'es un peu useless, quoi. Et ça, au début, c'était une réflexion comme ça, mais cette réflexion, elle a commencé à être de plus en plus pesante, et je me dis, regarde, tous les gens, ils ont un métier. Dans le mot métier, il y a quelque chose en fait qui est en rapport avec le rôle que tu as dans la société. Un boulanger, il fait du pain, il nourrit les gens. Un médecin, il soigne les gens. Tu vois, un charpentier, il construit des maisons. Toi, tu habilles des gens qui ont beaucoup d'argent. c'était génial parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Hein. Tu vois, genre, et je pars toujours d'un principe, c'est que things always happen for a good reason. Les choses se passent toujours pour une bonne raison. Et si j'avais pas vécu ça, j'aurais pas pu voir les choses autrement. C'est parce que justement, je vivais dans ce milieu tellement, au final, intense, superficiel, mais très intense, où tu vois, genre tout est à chaud, tout est dans l'esthétique, dans les apparences. Bah, du coup, ça m'a déjà greffé quelque chose dans l'œil. Niveau esthétique, c'était devenu imparable. J'avais besoin de retrouver ce point d'esthétique, mais je me dis, je pense que c'est pas ça l'essentiel. La base de tout, c'est plus de savoir pourquoi je le fais. Et là, je vois pas de réponse, en fait, à ce métier, à ce que je fais. Et du coup, en gros, j'étais juste paumée, quoi.
Et pourquoi tu penses que, entre guillemets, tu t'es pas rendu compte de ça avant ou que tu t'es pas posé la question avant? Parce que c'est quelque chose qui revient parfois assez souvent quand je parle avec aussi, même certains entrepreneurs de après ta génération, et qui me disent un peu tous... En fait, je suis contente quand même d'être passée par là. Après, je pense qu'ils disent ça parce que forcément, peut-être qu'ils n'en seraient pas là aujourd'hui si jamais ils n'avaient pas eu ça. Mais moi, j'ai en fait du mal avec cette réflexion parce que si jamais je suis un peu cette idée-là, il faudrait que je passe par aussi une grande boîte pour me sentir étouffée, non. Pour me rendre compte qu'en fait, je préfère être libre. Mais j'ai l'impression que je me suis déjà posé la question, en fait.
Non, mais vous n'êtes pas la même époque. Vous n'êtes pas nés dans la même dynamique. Nous, l'époque où on était, tu vois, genre, on parlait pas trop de start-up. N'oublie pas un truc, c'est qu'on n'a pas grandi avec Internet.
Ouais.
Internet est arrivé quand j'avais 18 ans et moi j'étais grave en avance, j'avais un modem et tout. À 18 ans chez moi, j'ai consulté les résultats du bac sur Internet en 98. Ça c'était un truc de malade.
J'avais un an.
Alors t'imagines, je parle à quelqu'un qui a un an. À 18 ans, tu vois le ratio, la différence c'est que vous êtes né avec cette dynamique. Après avec la crise aussi, c'est que vous êtes arrivé dans un monde où l'emploi était difficile, où en fait le choix, en fait c'était presque un non-choix, fallait être entrepreneur pour envisager autre chose que la crise. Et du coup on a vachement mis en avant et starifié l'entrepreneuriat, alors que nous on vient d'une époque où il faut rentrer dans une grosse boîte, c'est ça qui est top. Le rêve de toutes mes copines c'était de bosser chez L'Oréal, chez Dior, et d'y passer de leur vie. Il n'y avait pas de genre deuxième, troisième choix, t'avais une carrière. Et moi j'ai senti que le vent était en train de tourner en 2005 et 2006, en fait. J'ai acheté mes chaussures pour mon mariage sur Yoox, tu vois.
Ouais.
J'étais fascinée, passionnée par ce fait de pouvoir faire du shopping online. Et je me dis, c'est génial, pas besoin d'attendre que les boutiques ouvrent ou ferment. Et en plus, pas de frustration. Tu peux regarder, tu peux faire du lèche-vitrine sans que personne te regarde. Tu peux, en fait, genre, faire du lèche-vitrine et hop, éteindre la page. T'as quand même ce plaisir de l'œil d'avoir regardé des beaux vêtements, de pas les acheter, mais personne ne le sait et on s'en fout. Et du coup, j'avais cette fascination pour Internet et j'ai été obsédée par ça après mon premier fils, en fait. Moi, le déclic, je pense que quand j'ai eu mon premier fils en 2008, j'ai senti que le monde était en train de se transformer. Ou en tout cas, chez moi, il y avait quelque chose qui était en train de changer. Je me comprenais plus et je savais plus ni où j'allais ou ce que je faisais, à quoi ça servait. Et je me suis dit, en fait, j'ai l'impression que le vent est en train de tourner vers quelque chose que je ne connais pas, quelque chose, je sais pas ce que c'est, mais du coup, bah, je crois que je suis obligée de me perdre et de me laisser, en fait, à un moment donné, juste quand tu pètes un câble et que t'en peux plus, t'as pas le choix.
Ouais, ouais.
Je le dis facilement maintenant, aujourd'hui, ça a pris des années hein, de comprendre que j'en pouvais plus, mais c'est juste à la fin, quand tu tournes en rond et que tu te cognes toujours la tête devant la même vitre, tu te dis... à un moment donné, change de direction, meuf. Il y a bien un endroit où il n'y a pas de vitre sur laquelle tu vas te cogner.
Ouais. Et du coup, d'où t'es venue l'envie de créer The Other Art of Living, dont tu es la fondatrice? À quel moment, en fait, on va dire, non seulement t'en as eu marre et de taper dans la vitre, on va dire, et pourquoi cette plateforme en particulier?
Alors, c'est là que l'histoire devient très intéressante. Parce que, bien entendu, je n'ai jamais voulu créer un blog. J'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Et c'est grâce à cette fameuse conseillère du Pôle emploi dont je parle souvent, pour laquelle j'ai une gratitude infinie. En fait, je me suis retrouvée dans un job un peu spécial, un peu chelou, chez qui j'ai négocié un licenciement économique. Donc du coup, j'étais, ça s'appelait genre un CSP, contrat de sécurisation professionnelle. Et c'était hyper rigolo parce qu'en fait, le jour où j'ai quitté cette entreprise, c'est très drôle parce que cette entreprise s'appelait Born. Tu fait voir pourquoi genre je tiens vachement en fait. J'ai toujours vu les signes, mais maintenant du coup j'y fais encore plus attention. Le jour où j'ai quitté la société Born, j'ai appris que j'étais enceinte de mon deuxième fils. Donc je quittais une société qui s'appelait Born.
Qui s'appelait Naissance, quoi, pour les non-anglophones.
Voilà, pour aller genre faire naître autre chose. Et je me retrouvais donc au Pôle emploi, premier jour, et enceinte. J'arrive, la meuf, je me suis dit, elle va me défoncer, quoi. Elle va dire, ah là là, celle-là, qu'est-ce qu'elle vient faire? Et la femme me dit, écoutez, c'est merveilleux, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Vous allez pouvoir vivre votre grossesse pour préparer votre nouvelle vie professionnelle. On va se servir de cette année pour vous donner tous les outils qu'il faut pour faire ce que vous pouvez envisager. Et je pense que vous êtes très créative, mais vous ne le savez pas. Et je lui dis, non, mais je suis créative, mais je sais rien faire. Elle me dit, mais justement, vous allez apprendre. Parce que je pense que vous avez toujours été dans des entreprises et vous avez toujours demandé à des gens de faire, sauf que si vous êtes aussi créative et autonome, vous n'allez pas réussir à retravailler dans une entreprise normale. Elle était un peu sûre de son coup. Ça, c'était en 2012.
C'est assez dingue, je trouve. Enfin, je sais pas, c'est peut-être l'image qu'on a aussi, mais alors moi, Pôle emploi, tu vois, j'imaginais genre la prison. Genre, t'arrives, t'es un numéro, on t'appelle quand t'as un boulot pour, tu vois, le seul truc qui se libère.
Et c'est
assez dingue, l'accompagnement, en fait, qu'il y a.
Ouais,
ça doit être un message, tu vois, pour les auditeurs qui écoutent et qui n'osent peut-être pas y aller parce que ça a quand même une sale image, quoi.
Tu sais, c'est comme l'école. En général, les gens disent « Ouais, t'as fait quelle école ? Selon l'école dans laquelle tu es, t'auras tel type de job. » J'ai dit « Tu sais, l'école, c'est toi qui en fais ce qu'elle sera. »
Ouais, totalement.
C'est pas le contraire. Elle va t'apporter ce qu'elle a, mais toi aussi, en fait, c'est
réciproque.
Donnant-donnant. Mmh. Genre, on s'accompagne. Et après, il y a une question... Alors, le truc qui était hyper drôle, c'est que, en fait, le premier Pôle emploi normal auquel je suis allée, ils m'ont dit « Bah, en fait, non, vous êtes pas là, madame. » C'était au fin fond du 13e. Le pôle emploi dont vous dépendez est là, c'est-à-dire en bas de chez moi. Et moi, j'ai cru que c'était parce qu'il devait y avoir plusieurs antennes dans le 13e et que j'étais par hasard parachutée là. Et en fait, il s'avérait que de tous les CSP, l'antenne était là de tout Paris. En fait, elle était en bas de chez moi. Je veux dire, c'est rigolo comme signe.
Deuxième signe.
Ouais, je me retrouve avec un pôle emploi spécialisé en CSP et le seul qui existe, il est là en bas de chez moi. Et cette femme, elle a été, mais d'une...
Clairvoyance.
Au bout de la... Elle m'a rassurée. Mais moi, j'arrivais vraiment, tu vois, comme tout le monde, en me disant, putain, mais genre, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, il va rien se passer, quoi. Et elle m'a dit, non, il faut que vous repreniez des cours. Donc, c'est un peu tard dans la saison, c'était au mois de juillet. Je m'en rappelle, elle m'a dit, mais on va faire la demande quand même. On va faire la demande de tout ce que vous pouvez faire. Je vais appuyer votre demande en disant que vous êtes enceinte, très motivée et que vous avez absolument besoin pour votre projet. Et elle m'a envoyée dans un centre de formation de PAO. Elle m'a dit, je crois que dans ce centre, il y a à peu près toutes les options qu'il vous faudrait pour après avoir un minimum d'outils pour démarrer après ensuite votre carrière. On n'avait aucune idée de ce que ça serait. Et donc, il y avait Photoshop, HTML, CSS, WordPress, InDesign. Et au mois d'août, elle m'appelle genre le 10 août. Et dit, écoutez, c'est formidable, vous n'allez pas deviner, on a une réponse, il restait une place, elle est pour vous. Et du coup, j'ai commencé la rentrée à reprendre les cours. J'avais jamais touché à Photoshop de ma vie, rien du tout. Et j'ai fait ma grossesse, du coup, en faisant ces formations. Et à l'issue de la formation, notre exercice de fin de formation, c'était de faire un site internet. Et moi, comme je disais beaucoup de choses sur le développement personnel, parce que quitte à remettre tout à plat, être en totale remise en question, je me suis dit, bon, il va falloir que je change un peu les idées. Et j'ai lu beaucoup de choses sur le développement personnel, comme le secret, le pouvoir du moment présent, le pouvoir de l'intention. Et en fait, tout ça s'accompagnait avec cette démarche créative. Et dans l'exercice où il fallait faire un site, il fallait donc donner un nom à ce site internet. Et en développement personnel, il y a le pouvoir de la visualisation, tu vois, qui commence justement aussi par l'écriture. Parce que quand tu commences à visualiser et à écrire les choses, tu commences à les matérialiser et tu commences à donner une forme à ton projet. Et je me suis dit, bon, alors, qu'est-ce que je veux pour cette nouvelle vie? Et je me suis dit, mais en fait, j'en sais rien. J'ai aucune idée de ce que je veux. Tout ce que je sais, c'est que je veux juste vivre différemment. Je veux juste vivre autrement. Et j'ai appelé ce site, donc, pendant ma formation Pôle emploi, The Other Art of Living.
C'est génial.
C'était juste c'est, vraiment c'est, le...
Tu vois, j'ai l'impression que c'était une naissance pour ton enfant, mais une renaissance aussi un peu pour toi.
Exactement.
Et j'avais lu que tu avais lu pas mal de livres de développement personnel pendant cette période. Et je voulais savoir, en fait, si tu as aussi considéré ça comme une sorte de formation. Et qu'est-ce que peut-être tu as le plus appris de cette auto-formation?
Ah, mais j'étais boulimique, en fait. Je me disais, mais c'est pas perdu. Quitte à être en mode reset, tu vas tout recommencer à zéro. Donc, en fait... T'as la chance déjà de faire les cours de créa. Bon, j'avais pas. C'était pas un master, c'était pas une année en école, et puis j'étais enceinte et tout, tu vois. Je me suis dit, il faut que j'utilise cette année pour optimiser un maximum de nouvelles choses, développer des nouveaux skills, tu vois. Et je me suis dit, il n'y a pas le choix. T'es là, t'es enceinte, t'as tes cours, mais tu dois faire autre chose. Donc, j'ai regardé comment penser différemment. En fait, ça m'a ouvert pas mal de choses, et je pratiquais au fur et à mesure ce que je lisais. Parce que je me suis dit, bah, autant aller jusqu'au bout du délire. Et petit à petit, je lisais un truc, je le pratiquais et je voyais que ça fonctionnait. Je regardais, en fait, j'étais en phase de lecture, observation, absorption et du coup, pratique personnelle. Du coup, remise en question et réinterprétation de tout ça. Tu regardes avec un regard nouveau ce que tu es capable de faire en faisant les choses différemment par rapport à d'habitude.
Ouais, je vois totalement.
Introspection.
Ouais.
Cherchez le mot. Voilà. J'étais c'est en pleine introspection. Ouais. Il y avait un côté aussi, bah, la grossesse, je pense que, tu sais, elle te force à penser doublement parce que c'était mon deuxième enfant. Et tout le monde me disait, mais t'es complètement folle de lâcher job, tout ça. Pour faire quoi? T'as des crédits, tout machin. J'en sais rien, mais en fait, je suis pas sûre que ce soit une si bonne idée de repousser ça parce que si je suis malheureuse dans un autre job, j'aurai juste deux enfants qui vont supporter une mère dépressive, hystéro. Alors, en fait, sinon, le changement, tu le fais quand? Tu le fais jamais.
Ouais, je suis totalement d'accord. On a tendance, je pense, à se complaire dans, justement, repousser le moment où on doit faire face à soi-même parce que c'est plus simple, en fait.
Mais
parce que c'est dur de faire face à une réalité où on ne sait pas ce qui va se passer derrière, où on ne sait pas pourquoi on n'est pas heureux. Mais je pense qu'une fois que tu sautes le pas, tu peux que aller en avant, quoi.
Et surtout que la peur, elle est souvent très peu justifiée parce que c'est juste l'inconnu. Et l'inconnu, c'est aussi la zone... De confort dans laquelle... de l'autre côté de la zone de confort. Et une fois que tu as sauté une fois de l'autre côté, tu sais qu'en général, dès que tu as cette petite peur, dès que tu as cet inconnu, tu sais quelque part presque que c'est un bon signe. Et donc, je me suis vraiment, vraiment forcée cette fois-ci à lâcher prise et en me disant, en fait, si tout ce que tu fais te mène là où tu en es et que tu as l'impression de tourner en rond, ça veut dire qu'il faut que tu arrêtes de faire ce que tu fais comme tu le fais. Et donc, j'ai commencé à faire tout le contraire de ce que je faisais. Et quand je me disais, tiens, je devrais faire ça, ah non, j'oserais pas. Et ben, je me forçais à le faire. Dès que j'avais un doute, dès que j'avais peur de faire quelque chose, tu sais, comme si genre, tu fermais les yeux et tu sautais dans le truc. Mais vraiment.
Comme quand tu m'as sauté dans la piscine alors que l'eau, elle est gelée.
Exactement. Et sauf que c'était genre, du coup, pour n'importe quoi, pour des trucs cons, genre j'y vais pas, je mets la robe. En fait, j'ai commencé à penser autrement. Et je me dis, qu'est-ce que tu peux faire d'autre, de différent? Changer de trajet. Pourquoi tu prends toujours le même trajet en allant dans la même direction? Il peut pas t'arriver autre chose que ce qui t'arrive. Change de direction, change de façon d'y aller. Change de façon de t'habiller et en provoquant le changement, tu le crées. Et puis bon, il y a un livre des Cartelieux sur le pouvoir du moment présent où j'ai commencé à prendre conscience de cette notion qui était la seule qui était réelle. C'est que finalement, on est tout le temps dans le passé à penser au remords, à ce qu'on n'a pas fait, toujours dans le futur à stresser de ce qui n'a pas encore lieu ou ce qui pourrait arriver. En fait, tout ça, ce ne sont que des souvenirs qui n'ont plus lieu et qui ne pourront plus rien changer ou des foutaises et des fantasmes.
Ouais.
Mais des fantasmes négatifs. Ouais, je vais pas y arriver parce que ça, tu vois. En fait, c'est que toi qui te dis ça.
C'est des projections.
C'est des projections personnelles de tes peurs que tu te projettes et que tu regardes. Et du coup, tu passes ta vie à regarder ta projection. Donc, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, rien, en fait. Parce que ni tu le fais, ni tu envisages de solution, vu que tu t'es mis ta propre limite. Et c'est ça le problème. Je me suis aperçue de toutes les limites que je m'étais mise à travers mon langage, ma façon de penser. Ça part par là, tu vois, la façon de penser, mais la façon de parler aussi. Tout ce que tu peux te dire, pas déjà par toi-même, t'auto-flageller, je suis pas capable de faire ça, je sais pas faire ça. À partir du moment où tu le dis, en fait, c'est comme un... Ah oh, putain, je vais faire ma Vandame là. C'est un statement. C'est quoi déjà?
Un statement, ben ouais, non, moi aussi parfois j'ai du mal à traduire. Mais en fait, ça devient une réalité un peu. C'est ouais, à force de le dire, tu le matérialises.
C'est une affirmation. Ouais. En fait, tu t'affirmes toi-même, putain, je suis trop nulle. Combien de fois tu dis dans la journée, putain, mais je suis trop bête, j'ai oublié de faire ça. Ouais. Mais ça, en fait, tu sais pas, mais tu le dis et en fait, tu confirmes le truc et tu le crées finalement.
Ah, je suis totalement d'accord. C'est marrant parce qu'il y a aussi, oui, des notamment des hypnothérapeutes que je connais qui m'avaient dit arrête de dire mais tout le temps. Parce qu'en fait, j'ai tendance à vouloir, tu vois, avoir argumenter. Raison, ouais, argumenter, mais
t'es
tout
quoi,
le temps.
Comme
je suis cancer.
Très sensible.
Mais tu vois, alors, aparté total, mais ça, je veux en parler parce que l'astrologie, pourquoi. Parfois, je trouve qu'il y a des trucs très vrais, et toujours, ce qui me fait énormément remettre le truc en question, c'est que j'ai une sœur jumelle et qu'on a deux personnalités extrêmement différentes.
Vous n'êtes pas venue au même moment. Et puis après, il y a l'éducation, et après, il y a le patrimoine.
Mais
on
est une sœur jumelle.
Mais ça veut rien dire parce
qu'on marche la même éducation,
ouais,
on a un peu le même pratique.
Tu sais, maintenant que j'ai des enfants, je vois, ils ont beau avoir la même. En plus, vous êtes vraie jumelle ?
Non, fausse jumelle.
Fausse jumelle, déjà.
Ouais, oui, oui, ça c'est vrai.
Et après, tu sais, genre, t'as ce qu'on appelle le karma génétique. Donc chaque enfant. Chaque personne qui naît vient avec en fait un patrimoine génétique qui est différent. Ça, c'est la roulette russe.
Ça explique beaucoup de choses parce
toi,
que on est
prendre...
trois sœurs, on est hyper différentes.
Et tu peux prendre du côté de ta mère, tu peux prendre et ta sœur a pris du côté de ton père. Tu vois, il y a des choses qui sont communes, mais il va y avoir des différenciations et heureusement, ce qui va créer vos personnalités. Le fait aussi qu'il y en ait une qui soit née avant, l'autre après. Et puis après, tu vois, genre c'est. Il y a des pertinences. Pour moi, c'est con, mais tu sais, l'astrologie, c'est presque scientifique.
Mm.
On est tous humains. Au final, humain égale 1. Donc il y a forcément des similitudes. Donc déjà 12, je trouve que c'est pas mal. Se dire que sur Terre, il y a 12 catégories par rapport à l'orientation des étoiles, de la Lune et tout, ça me paraît pas incongru, quoi. Mais bon, après, c'est des affinités que j'ai depuis toujours.
Ouais.
Et après, à force d'avoir un peu pratiqué, d'avoir été vachement dans ce truc, c'est d'une évidence, après. Mais c'est rigolo parce que toi, t'as un tempérament, tu dois avoir un ascendant... un peu...
J'ai aucune idée de mon ascendant. Comment on connaît son ascendant ?
Avec l'heure, tu tapes
okay.
Recherche, calcul d'ascendant,
ouais.
Et tu regardes...
Parce que je suis née à 8h02 et ma sœur à 8h.
Tu vois, bah ouais. Vous n'avez pas le même ascendant. C'est ça toute la différence.
Ah, c'est à la minute l'ascendant ?
Exactement, exactement.
Ah.
Et du coup, en général, plus on vieillit, plus l'ascendant prend le dessus.
Ok, mm-hmm. Oh, c'est hyper intéressant ça.
Je serais pas étonnée que tu sois un signe comme Lion ou un truc comme ça.
Ok, on t'agra juste après. Bon, alors, attends, essayons de garder
la conversation qui part dans tout.
Non, mais j'adore, mais tu vois, en fait, il y a une question là qui me paraît assez. Que j'ai envie de poser maintenant, c'est. Tu as donc créé le Dear the Art of Living, qui est une plateforme majoritairement digitale à la base, vu que c'était surtout ton blog et ensuite tes réseaux sociaux. Et récemment, tu as lancé The Good Moon Class, dont tu vas nous parler un peu plus en détail. Mais donc, l'idée, c'est que cette fois-ci, c'est plutôt une classe, quoi, comme le nom l'indique. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent le contre-pied du digital, en fait, et qui partent plus sur le retour à l'humain, en créant soit des événements, soit des lieux physiques. Et c'est un peu ce que t'as fait, et je me suis demandé si c'était volontaire de ta part, si t'as eu un peu cette réflexion. Et tu vois, comment t'imaginais un peu l'avenir du digital, en fait.
En fait, moi, j'ai toujours aimé l'événement. Je bossais avant pour un salon qui s'appelait Salon Traneuil, et j'organisais un salon, tu vois. Donc, l'humain, ça a toujours été au cœur de tout. C'était toujours... la base pour moi de tout, c'est l'humain. C'est ce que j'aime le plus. Et finalement, les réseaux sociaux, c'était juste une façon de pouvoir... traduire ce nouveau langage professionnel, mais mes idées, je pense, mes valeurs, elles sont toujours les mêmes. Et surtout, je n'ai jamais envisagé, je me suis pas posé la question en fait. C'était juste que en fait la Good Mood Class, la première Good Mood Class, c'était l'anniversaire de mon blog. Et j'ai demandé à mes lectrices ce qu'elles voulaient qu'on fasse. Et je pensais leur faire un concours, tu vois, pour leur offrir des cadeaux. Et elles m'ont dit non, une rencontre. Et c'est comme ça que ça s'écrit, parce que du coup, alors. La petite histoire, c'est que les lectrices ont commencé à me dire une rencontre, et j'ai dit ok, d'accord, on va faire une rencontre, ça fait longtemps que j'ai pas fait une rencontre, on va organiser un brunch, et puis ça sera sympa. J'ai choisi 25 lectrices dans tous les 150 inscriptions, et dans les 25-30, il y en avait un peu plus d'un tiers qui venaient de province. Tu vois, genre train, avion et compagnie, je me suis dit bon bah faut pas venir, hein, c'est pas grave, on tirera au sort d'autres personnes qui habitent à Paris. Et en fait, j'étais hyper étonnée parce que les filles me confirmaient leur présence. Lyon, Dijon, Strasbourg, Bordeaux et tout. Et je me suis dit, mais c'est une blague, elles vont pas venir en fait pour un brunch, c'est pas possible. Et après je me suis dit, bah en fait, si elles viennent, c'est peut-être à moi de faire en sorte que ce ne soit pas qu'un brunch. Tu sais, j'étais hyper touchée que des gens se déplacent pour venir juste à un brunch. Et du coup, je me suis dit, j'aimerais les remercier autrement. je sais que je vais leur offrir des cadeaux, mais je voudrais un truc qu'elle puisse avoir gardé en elle et qu'elle puisse ensuite pratiquer tous les jours. Je savais pas comment formuler ça, je me suis dit peut-être je voudrais qu'elle vive cette expérience qui est The Other Top Living, finalement, qui est ma quête personnelle de comment vivre mieux, parce que moi, en tant qu'ancienne stressée, parce qu'il faut savoir aussi pourquoi tu te poses autant de questions, pourquoi j'ai autant d'eczéma, pourquoi je suis aussi si calée en thérapie, c'est parce que je les ai tous fréquentés, ces gens, tous ces thérapeutes, je les connais, c'est devenu des gens qui m'ont beaucoup, beaucoup aidée, et du coup, j'ai commencé à partager au fur et à mesure sur le blog et autour de moi, j'ai vu que ça marchait sur moi, ça marchait sur mes amis, au fur et à mesure, un peu sur les lectrices, c'était un peu le début, tout ça. Et je me suis dit, alors, je vais peut-être inviter des gens à venir pour passer ce moment avec nous et leur montrer ce que ces personnes font et qu'elles nous apprennent à pratiquer un truc. On va le faire tous ensemble parce que ce sera beaucoup plus ludique. Et en même temps, c'est une façon d'obliger les gens de faire les choses. Parce que tu sais, il y a une différence, je me dis. Les gens, ils pensent toujours qu'en lisant un livre ou en assistant à une conférence, ça peut changer leur vie. Mais il y a une différence entre lire et dire les choses et faire les choses. Et je me suis dit, pendant la Good Mooka, je veux qu'on fasse quelque chose. Même si tu l'as fait une seconde ou une fois, ça sera la différence entre je l'ai entendu ou je l'ai vu. Et du coup, on a commencé à... C'était un peu une espèce de... C'était vraiment dingue, tu vois, genre tout s'est fait hyper naturellement, une ambiance de folie, et tout le monde me demandait, mais qu'est-ce que t'as foutu dans les cakes, c'est pas possible, ils ont tous le smile comme ça, mais genre t'as mis de la beuh.
Est-ce illicite.
J'ai dit, mais je sais pas, c'était un peu genre Woodstock, quoi, tu vois. Et en fait, à la fin, c'est surtout ça, le truc qui a commencé à revenir, tout le monde me disait, ah oui, en fait, à la base, c'était donc l'anniversaire, mais je me suis dit, comment on va changer un petit peu le format, comment on va appeler ça, on va appeler ça autrement. Et comme chez Kouan, dans mon ancien job, on m'appelait The Chief Good Mood Officer, j'ai appelé ça The Good Mood Class. Vraiment, tu vois, mais c'était l'anniversaire qui était intitulé comme ça, du coup. Et en fait, à la fin, tout le monde a commencé à me demander, mais quand est-ce que tu refais une Good Mood Class? Quand est-ce que tu refais une Good Mood Class? Je dis, bah, je sais pas, c'est un anniversaire, donc j'imagine l'année prochaine. Mais la question revenait sans arrêt, et mon mari a eu quand même cette idée en disant, bah c'est pas con, peut-être que tu devrais refaire une Good Mood Class ailleurs qu'à Paris, parce que sinon tu toucherais toujours la même personne. Comme j'ai toujours le pourquoi pas facile, je dis pas, t'as raison, pourquoi pas.
C'est quand même une excellente habitude, ça. Je relève juste ça, parce que t'as tellement de gens qui ont l'inverse, en fait, qui ont le « Oh non, à mon avis, ça va être compliqué, facile », tu vois. Ça a toujours été le cas chez toi, ou tu l'as travaillé?
Je déteste, je vais te dire un truc, j'ai une intolérance extrême. Quand tu poses une question et que les gens te trouvent le problème, je lui dis, en fait, si tu veux le problème, c'est bon. À quoi ça sert que tu me répondes par un problème alors que on a besoin d'une solution?
Ouais, je suis d'accord.
Et si tu veux, c'est une façon de penser. Et donc, du coup, j'ai toujours rebondi comme ça. Et quand je ne connais pas, bah, je lui dis, bah, on teste. Et à chaque fois, c'est ça le problème, c'est qu'il y a tellement de choses que je ne connais pas, finalement. À chaque fois, je me laisse de plus en plus séduire par cette porte un peu inconnue, parce que je sais qu'elle est souvent synonyme de bonne surprise, et que quoi qu'il arrive, comme les choses, elles se passent comme elles doivent se passer, je sais que soit j'apprends, si ça se passe pas bien, soit bah, du coup, ça sera sûrement quelque chose de mieux que ce que je peux imaginer. Parce que ça a été souvent le cas. Parce que, tu vois, genre à chaque fois que j'ai fait les choses sans savoir pourquoi, parce qu'avant j'étais tellement dans le contrôle, fallait faire ça à tel jour, à telle heure, tel machin, parce que j'étais éduquée comme ça. Plus, tu vois, culture asiatique, avec, tu vois, un côté un peu, il faut faire ça, pour faire ça. Et moi, genre, je comprenais, j'étais toujours un peu rebelle, je vois pas pourquoi je devrais faire ça. Pourquoi je dois être comme tout le monde, faire comme tout le monde? Et après, ça s'est intensifié dans l'autre sens, où j'ai commencé vraiment à prendre le contre-pied, à dire « Non, en fait, si ça doit pas se faire, ça se fait pas. » J'ai commencé à faire le fameux inverse de ce que je faisais. Quand mon intuition me disait quelque chose, j'ai décidé de l'écouter. Et du coup, je suis plus du tout rationnelle, par contre.
Okay.
Le problème, c'est que maintenant, je ne suis absolument plus rationnelle. Je cherche pas à comprendre pourquoi on le fait, on le fait.
C'est pas mal aussi, je pense. Enfin, je sais pas, parce que pour être, moi, hyper rationnelle, enfin, j'ai l'impression, c'est vrai que ça... Bah du coup, comme tu dis, on est toujours dans le contrôle, et même si j'arrive quand même à avoir aussi le pourquoi pas facile, dans le sens où, moi c'est plutôt...
Désolée, j'ai un peu de mal à comprendre pour l'instant.
Ah, c'est Alexa.
Nous sommes dans une maison surveillée, que se passe-t-il?
Là, ça fait très futuriste.
Ouais, tu vois, ça fait très... De la transformation digitale, c'est ça?
Voilà.
Donc, voilà, écoute, tu vois, bienvenue dans la maison digitale.
C'est marrant, je ne m'attendais pas du tout, parce qu'en plus, ta maison est décorée plutôt, j'ai l'impression...
Campagne.
Je sais pas. Non, mais très, ben, authentique, tu vois, et là, on entend...
Non.
Aparté.
Il y a un robot qui va sortir et qui va te proposer à boire.
Je l'attends. Mais donc oui, je te disais, parfois être rationnel, je pense que ça n'a pas que du bon non plus. Comment on va dire t'es passé peut-être de l'un à l'autre?
Faut un équilibre en fait. En vrai, il faut un équilibre de tout. Moi, c'est en fait. Il y a un moment de ma vie où je m'aimais pas trop, tu vois. Où vraiment j'aimais pas ma vie, j'aimais pas ce qui m'arrivait. Alors que pourtant je savais qu'elle était hyper chouette, tu vois. Je m'en voulais encore.
C'est pire, ouais.
Exactement.
Ouais.
Tu te dis putain, t'as tellement de chance et pourquoi tu te sens toujours pas bien? Et tu culpabilises doublement. Et en fait, tu sais pas que cette énergie négative, tu la communiques, tu l'envoies et tu la récupères. C'est un ping-pong avec l'univers. Bam, je t'envoie une énergie négative, bam, elle te revient dans pleine tête. Et tant t'as pas compris où était le problème, en fait, tu le revis sans arrêt. Parce que c'est ça la vie.
Il paraît aussi, ouais, il paraît qu'il y a des boucles.
Exact. Quand tu n'as pas réglé le problème, il te revient en pleine figure. Et de temps en temps, il revient même pour vérifier si tu penses que tu l'as acquis, il ne l'est pas totalement. Et en fait, je me disais, c'est épuisant, c'est pas possible. J'ai 25 ans, je suis déjà fatiguée, quoi. 28 ans, je suis au bord du gouffre. Comment je vais faire pour éduquer un enfant? Et en gros, on est là quand même pour une durée assez longue dans le monde. Et si tu ne sers à rien et que tu en as encore pour 20 ans de galère, on va pas y arriver. Donc j'ai dit, il faut que je trouve une solution, c'est pas possible. Je trouvais toujours des solutions pour tout, pour tout le monde. Et je dis, pourquoi je suis pas capable de trouver une solution pour moi? Et c'est parce que j'étais tout le temps dans le contrôle. Et quand t'es tout le temps dans le contrôle, tu crois toujours forcément que tu sais ce qu'il y a de mieux pour toi. En fait, ce qu'il y a de mieux pour toi, c'est ce qui se fera. C'est pas ce que toi tu penses. Parce que toi, c'est ton ego qui pense comme ça. Alors que le monde et l'univers a des plans beaucoup plus grands, illimités, dont tu n'as même pas conscience.
Ça, j'avais lu que tu disais dans une interview où on te demandait des conseils pour être heureux. Tu avais dit, c'est d'accepter que les choses se passent comme elles doivent se passer, en anglais, let it be. Et c'est quelque chose qui peut paraître, tu vois, assez évident, assez simple, mais je trouve ça tellement dur de l'accepter, en fait.
C'est ça. Mais c'est une réalité.
Parce que personnellement, tu vois, quand il m'arrive quelque chose que je n'aime pas ou que je veux, enfin, que je n'accepte pas, je vais avoir tendance à toujours vouloir le changer, en fait.
Évidemment. Mais ça, en fait, si tu veux, c'est quand t'as une option. C'est quand tu penses que t'as qu'un seul choix. C'est comme ça, et ça devait pas être autrement. Et donc, du coup, tu restes dessus. Donc, déjà d'une, t'as pas de fenêtre de tir pour te dire quelle est ma soupape de décompression. Quand tu sais que let it be, things always happen for a good reason, et que 6 mois, 4 mois plus tard, tout à coup tu dis, ah, je comprends pourquoi ça s'est passé, parce que ça se passe souvent comme ça. Après, tu comprends pourquoi ça s'est passé. Et ben en fait, tu décompresses cette terre négative, finalement, cette pensée négative, et tu passes à autre chose. Et le fait de passer déjà à autre chose, tu envisages les choses autrement, et tu développes autre chose. Alors que si tu restes bloqué sur ça, tu n'avances pas. Moi, j'ai cette obsession d'avancer, tu vois, et je sais que quand t'as un problème et que tu penses que ça se passe pas comme tu veux et que ça te contrarie, la contrariété, elle est humaine et elle est normale et elle est légitime et il faut l'exprimer, tu vois. Ça veut pas dire, par exemple, quand je dis toujours let it be, things was about me, ça veut pas dire que je suis pas un câble, que je suis toujours pas hystéro, parce que genre je pense qu'au débit du son de ma voix tu sens bien que je suis pas non plus zen, tu vois. Mais avec beaucoup de recul, genre je vais passer, par exemple s'il m'arrive un truc, une grosse tuile, une grosse merde, je vais être vénère comme tout le monde, je vais sûrement sortir des grosses insultes. Et tout à coup, j'ai quand même cette fenêtre qui va s'ouvrir, c'est dire, rappelle-toi que les choses se passent comme elles doivent se passer. C'est hyper contrariant, mais tu le comprendras plus tard. Et en fait, rien que ça, ça t'offre une autre option. Et déjà, tu commences à envisager passer à autre chose. Et quand tu passes à autre chose, hop, c'est oublié. Et tout à coup, tu comprends le pourquoi du comment.
Non, mais en fait, ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que, en fait, ça rejoint un peu ma philosophie aussi, qui est de prendre le pouvoir de sa vie. C'est qu'en fait, tu choisis de ne pas subir. Mais tu choisis de rebondir, quoi.
Ah, mais ça, c'est exactement la base. Tu sais, quand tu commences à prendre conscience du moment présent, que ta vie est ce que tu en fais. Je pense que le plus important, c'est de comprendre que, tu vois, les choses qui se passent, c'est pour ça que je dis toujours « things always happen for a good reason ». Si t'arrives une merde et que tu acceptes que c'est toi qui les a créées, ces merdes, eh ben, tu comprendras que c'est toi aussi qui vas créer la solution. Tu seras plus jamais tributaire des autres. Et à partir de ce moment-là, tu vis en autonomie. Et vivre en autonomie, c'est la liberté. Et ça, c'était le truc, en fait, je m'apercevais qui me manquait le plus, parce que j'avais l'impression, avant, j'avais l'impression de vivre avec 4000 bouées, accroché à un bateau, un radeau, les autres, les entreprises, les machins, et je pensais que j'étais incapable de nager en pleine mer. Et la première fois que j'ai fait mon premier bond pour sortir de ma première boîte, je ressentais vraiment cette impression de sauter dans le vide, dans une piscine. Et la première fois, ça fait tout drôle parce que tu te noies. Hein. Clairement, quand tu connais pas cette sensation la première fois, tu dis « Oula, où est-ce que je vais ?» Et un ami m'a dit un truc très très judicieux à cette époque, dont je m'en rappelle toute ma vie. Et là, je peux dire que il y a 2011-2010, j'en ai pas l'argent. Dans tous les sens du terme, il m'a dit, tu sais quoi, il faut apprendre à couler pour remonter à la surface. Et quand tu remontes à la surface, c'est que non seulement tu sais nager, mais ça veut dire que tu sais ce qui est devenu essentiel. Et moi, en fait, j'avais aucune conscience de ce qui était essentiel. Il n'y avait pas de priorité. Je passais le boulot avant tout, le stress. Je pouvais faire des montagnes et des caisses pour des choses qui ne servaient à rien. Et je me suis rendu compte de la perte de temps, la perte d'énergie, et en fait surtout de toute cette douleur que je m'affligeais à moi-même. Je me suis aperçue en fait que tous ces problèmes, je me les créais toute seule.
Ouais.
Je les ai créés, je les ai vécus. Après, j'en voulais à personne parce que je voyais bien que c'était moi, mais pourquoi j'avais besoin de m'autoflageller comme ça? Après, t'as des parcours, des schémas de vie où t'es obligé de passer par là pour comprendre. Et je n'ai aucun regret. Si je n'avais pas vécu ça, je n'aurais jamais pu comprendre. Plus en général, tu galères. Et plus la récompense, en général, elle en vaut la peine.
Mais c'est dur à accepter ça, je trouve. J'en avais parlé, je crois, sur un ou deux autres podcasts. Et parce que les gens le disent, tu vois, il faut parfois vivre quelque chose d'assez dur, ou tu vois, de toucher entre guillemets le fond pour pouvoir apprécier.
Tu sais quoi, c'est un
côté déprimant, je trouve. De se dire, il va falloir passer par le fond pour toucher entre guillemets l'Éden, quoi.
Ouais, quand vraiment, tu vois, tu t'aperçois que moi, j'ai commencé à beaucoup regarder les gens... qui m'inspirait le plus, comment je leur posais les premières interviews sur mon blog, s'appelait What Makes You Happy. C'était les portraits de gens que j'adorais, que j'admirais, et je cherchais toujours ce dénominateur commun. Qu'est-ce qui faisait qu'ils étaient heureux? Et souvent, j'entendais toujours après une galère, j'ai pris conscience. Soit j'ai failli mourir, j'ai une grosse emmerde, et en fait j'ai compris qu'il y avait en fait plus de temps, j'avais plus peur. J'avais envie d'autre chose, et grâce à cette galère, et vraiment, je me suis dit, c'est dommage quand même de devoir en arriver là, de devoir être résilient pour pouvoir. Malheureusement, c'est humain.
Ouais.
Tu sais, t'as pas conscience de ce que t'as tant que tu l'as plus.
Mais tu vois, j'ai l'impression que les podcasts, par exemple, ça change ça. Moi, je sais que du coup, là, j'ai entendu ça aussi sur beaucoup d'autres podcasts, et comme, bah, en fait, ça te fait réaliser ça, même si c'est beaucoup plus puissant de le vivre, la graine est quand même là, tu vois. Moi, c'est à force d'entendre aussi des gens qui disaient qu'ils étaient passés par des parcours où ils avaient été malheureux pendant 10 ans à travailler dans une boîte qu'ils aimaient pas, avoir des parcours qu'ils aimaient pas, où là, je me suis posé la question, bah putain, en fait, commence maintenant, pourquoi attendre?
Et exactement.
Voilà, on me dit que je suis jeune, mais en même temps, je vois pas l'intérêt d'attendre.
Exactement. Et là où je te rejoins, c'est pas parce que nous, par exemple, à notre époque, on s'est dit ça, il a fallu qu'on galère, que tout le monde doit passer par ça. Ça, c'est très chrétien. Hein. C'est très genre, vas-y, une gifle et je l'aurais mérité. Et, tu vois, il faut endurer.
Les martyrs.
Tu vois, genre, il y a un côté un peu chrétien, il faut galérer pour y arriver. Bah non, je suis désolée, il faut bosser, ça c'est sûr. Bosser, mais bosser, ça veut pas dire être obligé de galérer.
Ouais,
de
et d'être malheureux en fait.
Non. Et genre, ce que nous on a vécu, vous n'êtes pas obligé de le vivre. Et ça s'adresse à n'importe qui, même des gens de ma génération. On peut être deux personnes au même endroit, au même moment, et à ne pas vivre les choses de la même façon parce qu'on est tous différents. En revanche, il y a des mécaniques humaines qui sont universelles, qui reviennent. Les douleurs, les souffrances, le karma génétique et les relations humaines de base, l'amour, la haine, la peur. C'est des traumatismes qui reviennent sans arrêt. Après, il faut donc apprendre à juste à se connaître suffisamment pour surpasser le fait que, tu vois, genre, c'est pas le moi de l'ego, mais le moi de, genre, moi en tant que cette entité qui fait partie de ce monde. Moi, je fais partie de tout ça. Je suis acteur du monde, tu vois, et pas, je suis pas juste un spectateur. Et c'est ça qui a tout changé. Moi, quand j'ai commencé à dire, j'ai dit non. Moi, et c'est là que j'ai compris pourquoi ma réflexion de à quoi je sers. Et au fur et à mesure, en tirant un peu le fil, je me suis dit à quoi je sers, qu'est-ce que je fais. Et du coup, moi, ma vie dans cette histoire, ma vie, mon œuvre, qu'est-ce qui se passe?
Rien. Oui, ma signature.
En fait, tu ne sers à rien. Et là, j'ai dit non, c'est pas possible. Tu viens pas sur Terre pour rien. Tout le monde vient pour quelque chose. Soit pour régler les problèmes des autres ancêtres qui n'ont pas été réglés, soit t'as des rêves à réaliser tout simplement, et que t'as envie de faire changer les choses, c'est tout. Et quand j'ai décidé d'assumer ça, bah franchement, tu sais quoi, j'ai commencé à pousser une porte, et derrière une porte, il y avait une autre porte. Ça veut pas dire que tout a été facile, hein, mais j'ai commencé à vraiment être observatrice de tous ces signes. Un signe, deux signes, synchronicité, ces signes qui venaient tous en simultané, et qui me faisaient prendre conscience que quand il y avait plusieurs signes en même temps qui étaient en simultané, j'avais l'impression que le feu était au vert pour me dire que j'allais enfin dans le droit chemin. D'où le fameux tatouage avec la boussole.
Très belle signification.
Donc voilà.
J'ai deux dernières questions pour toi, Sophie. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur?
Ça c'est une question à mon avis qui était genre très pertinente à l'époque parce que j'avais peur de tellement de choses.
Ouais.
Je t'avoue aujourd'hui j'ai plus peur de beaucoup de choses parce que je me suis aperçue que la peur c'était toi en fait, c'était moi-même qui me l'affligeais. Et si tu acceptes de te dire que retire ce barreau, franchement à part les grands 8, j'ai plus trop peur de grand chose.
Et encore, moi j'aime pas, en fait ça aussi c'est pour moi, tu vois, un truc qu'il faut préciser. Oui j'ai peur des grands 8, mais je n'aime pas les grands 8, donc je n'en ferai pas.
C'est drôle.
Parce que moi je n'aime pas ça, plusieurs fois, tu sais, on m'a forcé dans les manèges, allez Louise, vas-y viens, tu vas voir, celui-ci il est cool. Alors moi j'ai pas envie de faire la relou quand t'es en groupe, ok d'accord, j'y vais.
Ouais,
et je déteste ça.
Ah non mais moi c'était pareil, je faisais, mais tu peux pas imaginer, mais à contre, toute petite, je me suis, mais vraiment genre, j'avais la hantise du coup du manège, du machin, parce que j'avais peur de ça. Et je vais te dire une anecdote hyper drôle. Un jour on était au sable de je sais pas quoi avec les enfants. Et il y avait un train, il y a 2-3 ans, il y a un truc avec une descente un peu rapide, mais normalement ça devrait aller parce que genre c'est un tronc, il n'y avait même pas d'accroche, rien du tout, mais moi rien que la descente, ça me fait flipper. Mmh. Mais j'avais tellement peur, tu peux pas, et j'essayais de cacher, dissimuler cette peur. J'avais mon fils de 2 ans dans les bras, et je pense que lui, il a dû ressentir cette peur. Je te jure, il était flippé. Et moi j'avais dit, non, mon chéri, t'inquiète, ça va aller. Écoute ça. On fait tout, on monte dans le tronc d'arbre et j'avais une amie avec son fils et il y avait mon autre, le grand, il avait pas peur. Et moi j'étais à l'arrière avec le petit dans les bras et le petit hurlait en pleurant et moi j'essayais de le réconforter, mais en vrai, pissais dessus. Je me suis dit parce que je veux pas lui retransmettre moi ma peur, ma phobie des grands 8 et des manèges, je veux qu'il surpasse ça et il faut que je suis obligée de l'accompagner. Et ben. On arrive, tu sais, genre quand ça monte tout doucement,
ouais,
tu vois,
ouais.
Et tu sais que genre juste derrière il y a la descente, et ben genre le truc il arrive tout là-haut et ça s'arrête, le manège s'arrête et il y a une voix dans un haut-parleur qui dit veuillez ne pas bouger, il y a un problème technique, nous allons vous redescendre. On a dû redescendre du manège à pied.
Mais non !
On est descendu, mon fils, genre le deuxième, le petit était genre... Mais le soulagement, comme si les mecs de la technique, ils sont venus le chercher, mais comme s'il était rescapé d'un incendie. Et le grand, il me dit, maman, tu sais quoi ? Je suis sûre qu'en fait, dans ta tête, t'as tellement prié pour que ça se passe pas, t'as réussi à faire arrêter le manège. Tellement il me connaît ! Il m'a dit, moi, je sais que t'aimes pas ça, et tu t'es tellement forcé que... T'as pas réussi. Et du coup, t'as fait arrêter le manège avec ton truc.
J'adore l'imagination, mais en boîte qui tient.
Ouais.
Non, mais déjà, c'est beau, je trouve. Enfin, ça prouve à quel point il croit en la force des choses.
Ah, mais mon fils, c'est pas dans l'univers comme. Tu vois, genre, il a 10 ans aujourd'hui. Enfin, il est comme moi aujourd'hui, quoi. Tu vois.
Il a gagné du temps.
Hein. Ouais, il a des travers encore à résoudre, mais c'est souvent les mêmes que moi. Donc, on s'accompagne mutuellement. Mais c'est drôle parce que c'est vrai que il s'est retourné, il a dit hey, « Eh maman, je suis sûre que c'est toi qui as fait arrêter le truc. » Et c'est quoi ? Avec tellement dans ta tête, t'avais peur et t'as demandé à l'univers d'arrêter le manège et le manège s'est arrêté à cause de toi.
C'est génial. Bon, et ma dernière question, c'est « Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie ?»
La liberté. Toujours. Moi, je suis accro à cette liberté d'avoir le choix, d'avoir la possibilité. Et en fait, et d'où ce chemin que j'ai fait personnellement, un travail sur moi-même, pour me donner plus de choix, plus d'options. Et en voyant la vie de cette façon, comme finalement cette méthode que j'ai développée au sein de la Good Mood Class, c'est pour se donner à tous les moyens d'être ce qu'on a envie d'être. Parce qu'en fait, on est notre propre vie et on est notre propre choix. Mais il faut se donner les propres choix qu'on a et les connaître. Et pour se les connaître, il faut savoir envisager toutes les possibilités.
Super, merci beaucoup à toi Sophie d'être venue sur InPower. Où est-ce qu'on redirige les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, sur The Art of Living et sur les Good Mood Class?
Alors, sur le compte Insta, on est très actifs. Instagram, The Good Mood Class, sur le blog, plein de nouveautés aussi bientôt.
Okay.
Plein de bonnes choses. Et puis une Good Mood Class le 29 septembre qui se prépare.
Ok, super, je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Merci beaucoup,
merci
à toi,
Sophie.
J'espère que cet échange avec Sophie vous aura plu. Si vous souhaitez découvrir l'univers des Good Mood Class, j'ai réalisé une vidéo sur le sujet sur ma chaîne YouTube My Better Self. Pour ne pas rater les prochains épisodes du podcast, n'oubliez pas de vous abonner sur l'application de podcast que vous êtes en train d'utiliser. C'est ce qui soutient le plus le podcast et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'InPower.
Mmh. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.